Genève. Côté. Nature.
Bonjour à tous et bienvenue comme chaque mardi dans votre émission Genève Côté Nature. Je suis Virginia et je suis une des fondatrices de l'association NARIES qui travaille pour la protection de la biodiversité et des milieux naturels. Je travaille comme toujours avec ma sœur jumelle Émilie. Bonjour. Sur Genève, nous sommes spécialisés en herpétologie, donc dans l'étude des amphibiens. Mais nous sommes aussi guides de terrain en Afrique du Sud et en Méditerranée. Nous connaissons donc très bien l'écosystème forestier, la savane et l'écosystème marin.
Cependant, il existe de nombreux autres écosystèmes, tous ayant leurs propres caractéristiques et accueillant différents organismes, végétaux et animaux. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous sommes dans un côté science et nous allons parler d'un écosystème que nous fréquentons un peu moins, mais que nombre d'entre vous côtoient régulièrement, je pense, et qui est extrêmement intéressant et extrêmement menacé. C'est l'écosystème alpin.
Mais tout d'abord, reprenons depuis le début, c'est-à-dire depuis la plus grande échelle, notre planète. Certes, on pourrait aller encore plus loin, mais ça nous suffira pour aujourd'hui. Nous avons donc la planète bleue, la Terre. Vue de l'espace, elle est appelée bleue parce qu'elle est couverte à 70% d'eau, la quasi-totalité étant de l'eau océanique, et le reste étant réparti entre les eaux souterraines, les lacs d'eau douce, les rivières, les tourbières, etc.
Les écosystèmes aquatiques sont donc très abondants et très diversifiés, mais tous ne sont pas aussi communs les uns que les autres. D'ailleurs, l'écosystème marécageux est l'un des plus menacés sur la Terre. Et oui, il faut penser qu'un marais, ce n'est pas très sexy. L'eau est stagnante, donc elle peut sentir mauvais, les moustiques pullulent, il y a de drôles de créatures visqueuses que nous, on adore, mais c'est vrai que les crapauds n'ont pas toujours la cote. De tout temps, il a été dans les mœurs de drainer les marais afin de les sécher pour régler les soucis dont on vient de parler et en plus annihiler la présence des sorcières, bien connues comme habitant dans les marais évidemment.
Le fait de drainer un marais permet aussi de récupérer une zone dans laquelle on peut ensuite planter. Le souci, c'est qu'en fait, les marais ont une grande utilité. Ils servent à récupérer l'eau qui est en trop pour qu'elle déborde dans une zone où elle ne fera pas de dégâts. Donc quand on draine un marais, on annule cette zone tampon et on provoque des inondations dans des zones habitables et les dégâts sont bien plus conséquents.
Mais on l'a dit avant, on va vous parler de l'écosystème alpin aujourd'hui. Alors, pourquoi commençons-nous par vous parler de marécage? Quelle est l'analogie entre ces deux entités? Eh bien, ces deux écosystèmes sont les plus menacés de la planète. Les marais, on vient de vous expliquer pourquoi. Mais pourquoi en est-il de même pour les hauts sommets? Personne ne les dérange, eux, on ne cherche pas à virer la neige. Quoique...
Non, mais le problème des écosystèmes alpins, c'est que si les conditions changent, on n'a pas de marge pour les suivre. Je m'explique. Dans un écosystème, on a des plantes et des animaux. Ces espèces ont des besoins particuliers qui sont assouvis par leur milieu. Les espèces se sont adaptées au fil du temps et de l'évolution et sont parfaitement en adéquation avec leur environnement. Elles trouvent leur nourriture, leur abri, leur partenaire dans un type bien précis de territoire. Si on reprend nos marais dans un premier temps, les amphibiens ont de quoi vivre sur Terre quand ils en ont besoin et dans l'eau quand le temps est venu de la reproduction. Des oiseaux migrent et viennent se poser à cet endroit car ils savent qu'ils y trouveront leur nourriture et donc peut-être qu'un carnivore prépare aussi un affût pour chasser ces oiseaux qui sont arrivés. Tous les êtres vivants d'un écosystème sont connectés et il est d'ailleurs très intéressant de réaliser un réseau trophique, donc qui mange qui, pour voir toutes les connexions.
Mais alors, imaginez qu'un marais soit drainé. Les amphibiens n'ont donc plus leur milieu adéquat, ils vont partir. Du coup, les oiseaux, qui venaient se poser pour se nourrir, ne trouveront plus rien à croquer et iront ailleurs. Et alors, le carnivore qui les attendait devra aussi changer sa stratégie et son lieu de chasse. Je simplifie un peu ici, parce que les connexions sont telles qu'on pourrait donner un millier d'exemples, mais vous avez compris le principe.
Retournons maintenant les pieds dans la neige. On l'a dit, à cet endroit, ce n'est pas tant un dérangement concret qui le menace, et c'est même là le problème, les soucis sont bien plus vastes.
Quelles sont les caractéristiques de l'écosystème alpin tout d'abord? La première et la plus importante, c'est le gradient de variation climatique selon l'altitude. On voit là toute la complexité de cet écosystème. Entre l'extrême sommet, un peu plus bas sur la pente, les zones forestières, on imagine bien que les conditions ne sont pas toutes les mêmes. La pression atmosphérique change aussi, de manière décroissante quand on monte, et inversement, le rayonnement solaire est de plus en plus élevé quand on va en altitude. Et surtout, caractéristique la plus importante du climat, la température. En montagne, on dit que la température moyenne de l'air décroît de 0,55 degrés tous les 100 mètres d'élévation, sachant que, évidemment, tout dépend de la saison. En été, on compte plutôt 0,7 degrés et en hiver, 0,4. La température du sol change aussi, et de manière très irrégulière puisqu'elle dépend en plus du soleil et de la présence de neige. Dernière composante importante qu'il faut considérer dans le climat de montagne, ce sont les précipitations. Les montagnes font office de condensateurs, donc les pluies augmentent avec l'altitude, mais les variations locales sont énormes, donc on peut difficilement tirer une loi générale.
Les montagnes sont donc un environnement très particulier. Dès qu'on change d'altitude, toutes les conditions se modifient. On dit presque qu'en montant sur une montagne, on traverse les climats de toute l'Europe. On peut donc comprendre que les animaux et les végétaux sont dépendants de zones très restreintes qui remplissent les bonnes conditions pour qu'ils puissent y survivre. C'est ce qui fait que l'endémisme, donc le fait que des espèces ne se trouvent que dans un lieu très limité, soit très important dans les chaînes alpines. Concernant la végétation, on parle d'étagement altitudinal, c'est-à-dire qu'on a des tranches successives de différentes végétations selon l'altitude. On parle en général de 5 tranches principales, le brouillard de fond de vallée, une zone dégagée, une zone de brouillard, les sommets enneigés sans brouillard et les nuages d'altitude tout en haut. Chaque zone n'est pas très répandue, on s'en doute. Or, si les conditions bougent, les organismes n'ont que peu de marge de manœuvre. Et ces conditions, évidemment, elles sont liées aux activités humaines, même si c'est moins direct que l'urbanisation ou que le drainage des marais, mais elles sont très sournoises. Tout est lié au réchauffement climatique.
Et c'est là que nous entrons dans le vif du sujet. Dans n'importe quel écosystème, si les conditions changent, les animaux vont essayer de se déplacer pour retrouver des conditions qui leur conviennent. Mais sur une montagne, si les températures augmentent, les animaux peuvent monter pour retrouver du froid. Mais ils ne peuvent pas le faire éternellement, parce que quand on est sur un sommet, on est sur un sommet. On ne peut pas monter plus haut. Il n'y a donc pas de moyen de retrouver de bonnes conditions.
Et la conséquence est dramatique. Les espèces disparaissent. Potentiellement, elles pourraient à nouveau s'adapter à ces nouvelles conditions, mais les changements que l'on vit actuellement sont extrêmement rapides. Or, une espèce ne peut pas s'adapter en claquant des doigts. Le principe de l'évolution, on en a déjà souvent parlé, mais je le répète, s'effectue sur des générations et des générations. Ce n'est pas un acte volontaire d'un individu qui se dit « Ah bah tiens, je vais changer mes besoins, comme ça je serai adapté à mon nouvel environnement ».
Et non, ce serait bien, mais ça ne marche pas du tout comme ça. L'évolution, comme notre cher Darwin l'a expliqué, est le fait que dans une population, le matériel génétique est diversifié. Si un accident, comme on l'appelle, survient, c'est-à-dire une maladie ou un changement dans l'environnement, certains individus, aléatoirement, seront plus à même de survivre parce que leurs gènes contiennent par hasard une information qui les rend plus aptes à survivre dans ces conditions-là. De ce fait, ces individus vont perdurer et vont se reproduire, transmettant ainsi ces gènes adéquats alors que d'autres individus vont mourir, faute d'être capables de survivre dans ces nouvelles conditions. La proportion d'individus possédant des gènes appropriés va alors augmenter, c'est l'évolution. Mais vous voyez donc à quel point c'est lent. Évidemment, certains organismes des sommets vont survivre parce qu'ils sont aléatoirement plus adaptés. Mais les changements sont si rapides de nos jours qu'il n'y a pas le temps pour que des générations et des générations naissent pour refournir les populations.
Nous arrivons au moment musical de notre émission. Alors jusque-là, on a dit que ce qui menaçait l'écosystème des montagnes était principalement le réchauffement climatique, et c'est bien vrai, mais on parlera en deuxième partie de quelques espèces phares des sommets et on verra que ce n'est pas aussi simple.
C'est vrai, parce que petit à petit, l'expansion humaine fait que l'urbanisation est aussi une des menaces en montagne. Et donc la pollution, et donc le dérangement des randonneurs, et donc la chasse. La chanson que nous vous proposons aujourd'hui est de Kaloun et concerne l'ours Canel qui était la dernière ours des Pyrénées et qui a été abattue par un chasseur en 2004 lors d'une battue au sanglier. Cette chanson est d'ailleurs tout à fait d'actualité puisque ce week-end, une ours a été tuée en Ariège lors d'une battue au sanglier également. Elle a apparemment attaqué le chasseur parce que des oursons étaient dans le coin. Ce qui est marrant, c'est que les chasseurs n'étaient pas censés être là parce que la zone était fermée ce jour-là.
C'était la dernière femelle d'ours pyrénéen. Elle s'appelait Canel. L'animal a été tué par un chasseur lors d'une battue au sanglier, maintenue malgré la présence annoncée du plantigrade dans le secteur. Son ourson Canelito est livré à lui-même en Vallée d'Aspe. Il est désormais orphelin.
Elle était reine de nos montagnes, humble matrone. Au fil des âges, son pelage était sa couronne. Elle était gardienne des ruisseaux, attirée par le reflet de la lune sur l'eau. Elle était l'héritage d'un monde si ancien que les loups face à elle aboyaient comme des chiens, contemplant les sommets et les neiges éternelles. C'était le royaume de Canel, dernière ours femelle d'une grande lignée, digne représentante de nos belles Pyrénées. Sur ces 12 contrées où les vaches font paître, l'être humain a chassé ses ancêtres. Des siècles d'écocide, de battus, sous le regard inquiet des chipaètes barbus. Était-ce la suite logique ou le destin peut-être? Bientôt Canel allait disparaître. Elle était reine de nos montagnes, mais le monde n'avait plus besoin d'elle. Entre la France et l'Espagne était le royaume de Canel. Elle a vu pousser les villages, s'échapper les lourdes fumées blanches des éco-buages. Elle a vu la Bigorre devenir ce qu'elle est, des câbles et des pylônes traverser la vallée. Apeurée par le chant des clarines, partout des pâturages, des enclos, des prairies. Seule face au danger de perdre sa couronne, de plus en plus de bergers pour nourrir les hommes. Puis d'immenses barrages se dressèrent autour d'elle, créant des paysages de lacs artificiels. Des routes par centaines, des baraques à touristes, des trous dans la falaise pour faire des raccourcis. Elle a contemplé le désastre, déplorant le silence des oiseaux dans les arbres. À l'ombre des reliefs, des pasteurs en errance, Canel, combien d'espèces disparaissent en silence? À l'ombre des reliefs, des pasteurs en errance, Canel, combien d'espèces disparaissent en silence? Elle était reine de nos montagnes, mais le monde n'avait plus besoin d'elle. Entre la France et l'Espagne, ne restez que vous, au revoir notre reine. La folie est humaine, un point de non-retour. Ils ont réintroduit quelques ours slovènes. Votre espèce est finie, éteinte pour toujours. Quand sous les yeux de votre ourson, victime d'un chasseur et des valeurs qu'il incarne, vous fûtes tué, sans raison, le 1er novembre 2004, en Béarn.
Tu t'aimes,
Cité Genève.
C'était Canel de Kaloun. Vous êtes de retour dans Genève, côté nature, votre émission nature hebdomadaire. Aujourd'hui, nous vous présentons un côté science dans lequel nous parlons de l'écosystème des montagnes.
Dans la première partie, nous avons vu que, avec l'écosystème des marais, ce sont les deux écosystèmes les plus menacés de la planète. Le problème, c'est que sur un sommet, quand les conditions changent, les animaux ne peuvent pas reculer indéfiniment pour retrouver des conditions adéquates qui remplissent leurs besoins. Ils ne peuvent pas non plus compter sur l'adaptation évolutive parce que les changements que nous connaissons actuellement sont bien trop rapides pour être palliés. Ces espèces vont donc finir par disparaître.
Dans cette deuxième partie, on va parler un peu plus précisément de quelques espèces inféodées au milieu alpin et qui sont menacées par nous autres humains de manière directe ou indirecte par le biais du réchauffement climatique.
Commençons par les marmottes. Ces petits rongeurs sont bien connus en montagne. Ils se repèrent soit par leur sifflement aigu, soit par leur course effrénée dans les pâturages. Les marmottes sont des animaux sociaux qui vivent en grande famille dans des terriers. Ces terriers ont de nombreuses chambres, sorties, communications qui transforment les sous-sols des prairies de montagne en vrais emmentals.
Les marmottes font partie des animaux qui hibernent, c'est-à-dire que pendant la saison froide, elles ralentissent leur métabolisme, la température corporelle, le nombre de battements du cœur par minute et leur fréquence respiratoire, et se regroupent toutes dans une chambre qui est tapissée de foin et qu'on nomme hibernaculum. Le succès de l'hibernation dépend du bilan énergétique des individus, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie disponible et l'énergie dépensée. C'est pour cette raison qu'avant l'hibernation, les marmottes cherchent à accumuler un maximum de réserves et que pendant l'hibernation, elles limitent les dépenses énergétiques. Normalement, ces réserves, qui sont stockées sous forme de graisse, atteignent un tiers de la masse corporelle d'un individu lorsqu'il va dormir. Un des problèmes avec le réchauffement climatique, c'est que la couche de neige est moins importante sur le sol et donc l'effet isolant est moins prononcé. Dans les terriers, il fait donc de plus en plus froid et le métabolisme des marmottes en hibernation doit fonctionner un petit peu plus fort pour qu'elles se maintiennent à une température à laquelle elles vont survivre. Les réserves accumulées vont donc s'utiliser plus rapidement et les individus seront plus faibles à la sortie de leur hibernation. Une condition corporelle moins bonne a malheureusement des conséquences. D'une part, la survie peut être en jeu si les réserves n'étaient pas suffisantes. Et ensuite, même si les individus survivent, il arrive qu'ils produisent des portées plus petites, ce qui implique une diminution des populations à long terme. Autre animal mythique des montagnes, le grand tétra et le lagopède alpin. Commençons par le premier. Le tétra est un oiseau de la même famille que les poules. Le mâle est grand, noir, avec un maquillage rouge sur l'œil. La femelle est plus petite, brune et rousse. La grande particularité du tétra est qu'il prépare des places de chant, appelées leks, dans lesquelles les mâles se battent à coups d'envolées lyriques. Le lagopède est aussi un gallinacé et a une allure qui ressemble au tétra en plus petit. Les deux sexes ont la particularité de changer de plumage selon la saison. En hiver, ils sont d'un blanc pur, sauf la queue, qui reste noire toute l'année. En été, ils sont tachetés noirs et bruns avec des zones blanches. C'est la livrée nuptiale. Étonnamment, les mâles tardent à perdre le blanc, ce qui les rend plus sujets à la prédation que les femelles. En automne, finalement, ils sont gris écaillés de blanc. Ces deux oiseaux vivent donc en montagne. Le tétra aime les forêts de conifères et les forêts mixtes et il évite les monocultures d'épicéas parce qu'il a besoin de clairières pour faire ses parades. Le lagopède, quant à lui, niche dans des dépressions peu profondes, garnies de plumes et de feuilles. En général, la femelle choisit un spot contre un rocher pour prévenir une attaque venant du ciel. Évidemment, ces deux espèces ont besoin du froid et de la neige et souffrent donc du réchauffement climatique. Mais la principale menace qui pèse sur elles est le dérangement par les humains. Or, nous expandons toujours plus loin notre emprise sur le monde naturel, notamment par le biais d'activités hivernales ou d'autres activités quand la neige tend à manquer. Il y a donc de moins en moins de zones tranquilles où tétra et lagopèdes peuvent mener leur vie tranquillement et faire la cour à leurs femelles sans être embêtés. Et si ces animaux sont dérangés en période de reproduction, c'est toute une vague qui est anéantie. Et bien sûr, autre menace due aux humains, la chasse. Eh oui, ces jolis oiseaux sont très prisés par les fanatiques du fusil. Ils sont protégés évidemment, mais c'est un léger détail qui ne gêne aucunement les braconniers.
Qui dit montagne dit évidemment bouquetin et chamois. Ces mammifères d'une agilité surprenante sont présents partout, notamment là où l'humain ne peut pas aller. Ils sont évidemment aussi sujets à la chasse, ce serait trop beau sinon, mais pour eux c'est réellement le réchauffement climatique qui pose problème. Avec leur fourrure qui est faite pour les grands froids, ils ont trop chaud. Ils doivent donc monter toujours plus haut pour trouver un peu d'air frais et ces déplacements sont bien étudiés, notamment dans les grisons où, attention, les chasseurs doivent prendre de plus en plus d'altitude pour les trouver. Ben voyons. Toujours est-il que des statistiques permettent de dire que l'altitude à laquelle le gibier est chassé a augmenté d'une centaine de mètres en un peu plus de 20 ans.
Il y a toutefois un paradoxe chez les bouquetins, c'est que le réchauffement semble aussi leur convenir parce que des températures plus clémentes au printemps impliquent une fonte des neiges plus rapide et donc davantage de nourriture. Il semblerait d'ailleurs que les animaux soient en meilleure santé parce que leurs cornes poussent plus vite. Malheureusement, une arrivée précoce de la végétation n'est pas non plus totalement bénéfique parce qu'elle ne coïncide plus avec les naissances. Et donc le pic nourricier est terminé quand les besoins se font sentir, ce qui peut provoquer une surmortalité des cabris. Les étés chauds et secs empêchent également la végétation de grandir et les animaux ne peuvent pas faire leurs réserves pour l'hiver.
Bref, on en revient toujours au même, quand la nature est en équilibre, tout va bien, mais il suffit qu'un détail soit perturbé et c'est toute l'harmonie qui se retrouve chamboulée. Et quoi qu'on puisse dire, l'humain est bien souvent derrière ces perturbations.
Nous sommes bientôt à la fin de cette émission sur l'écosystème montagnard et les menaces qui pèsent sur les animaux qui y vivent. On s'est surtout concentré sur la faune aujourd'hui, mais on vous parlera des plantes une prochaine fois.
Concernant les derniers rendez-vous nariès de l'année, nous avons notre dernière sortie qui aura lieu le dimanche 19 décembre. Nous vous proposerons de fabriquer des décorations de Noël avec des restes de tissu. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur notre site internet www.naries.ch.
Autre rendez-vous qui aura lieu le 17 décembre, c'est la présence de Nariès au marché de Noël de Puplinge. C'est un vendredi et plusieurs artisans vous présenteront leur travail de 16h à 19h sur la place du village. Venez nombreux pour terminer vos cadeaux de Noël en favorisant les artisans locaux.
Et si vous ne venez pas au marché, ne tardez pas pour commander vos cadeaux de Noël écologiques à notre boutique. Des cosmétiques, des bougies, des décorations, des bons pour des cours locales, nous avons tout ce qu'il vous faut pour faire plaisir. Nous travaillons aussi avec Isocel Photo qui vous propose des calendriers nature ou artistiques et des bons pour des ateliers photo ou des séances photo en famille. N'hésitez pas à nous demander plus d'informations ou à nous chercher sur les réseaux sociaux.
La semaine prochaine, nous démarrerons le 14e tournus de cette émission. Eh ben dis donc, ça passe. Nous vous présenterons donc un nouveau côté passion. Et en attendant, belle semaine à tous.
Au revoir.
Genève. Côté. Nature.